Il est 13h30 ici à Paris, 2h de moins en temps universel.
RFI Midi, Clotilde Dumais.
Une demi-heure à suivre, en grande partie consacrée donc à l'actualité européenne. On va largement revenir sur la dernière frappe russe en Ukraine, a soumis au moins 34 morts et des négociations de paix qui patinent. Ce sera aussi dans le prochain journal, dans une demi-heure. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Alors en dehors de l'Ukraine, de quoi allez-vous parler?
Avec la poursuite des opérations militaires israéliennes à Gaza et les hôpitaux palestiniens qui sont la cible des frappes, le dernier en date, celui de ce week-end, l'hôpital Al-Ali, en partie détruit par des tirs, reportages et témoignages dans ce journal. En Syrie, un puissant groupe armé, la 8e brigade, annonce sa dissolution et son rattachement à la nouvelle armée syrienne. À Damas, notre correspondante Manon Chaplin reviendra sur cette décision importante pour l'unification du pays. En Équateur, le président sortant Daniel Noboa a déclaré vainqueur du second tour de l'élection présidentielle. Son opposante de gauche, Luisa González, ne reconnaît pas les résultats et réclame un recomptage des voix. Les détails avec notre correspondant à Quito, Eric Sanson. Enfin, le tourisme spatial. La célèbre chanteuse américaine Katy Perry embarque tout à l'heure dans une fusée pour un bref voyage dans l'espace. Elle sera aux côtés de 5 autres femmes, dont la fiancée de Jeff Bezos, depuis l'ouest du Texas. Il s'agit du premier vol dans l'espace 100% féminin, nous expliquera Simon Rosé.
Et rendez-vous donc à midi, temps universel, 14h à Paris, donc pour ce journal.
RFI, l'Europe à midi.
Les condamnations se multiplient après le bombardement russe qui a fait donc au moins 34 morts dans la ville de Soumy dans le nord-est de l'Ukraine. Le futur chancelier allemand Friedrich Merz dénonce un crime de guerre grave, délibéré et voulu. La première ministre italienne Giorgia Meloni déplore une frappe horrible et lâche qui contredit tout engagement réel en faveur de la paix. Le président français Emmanuel Macron appelle lui à des mesures fortes pour imposer une trêve à Moscou. Bonjour Anastasia Becchio.
Bonjour.
Ce bombardement meurtrier, il intervient en pleine une tractation diplomatique pour une trêve avec les États-Unis à la manœuvre. Est-ce que ça pourrait contraindre l'administration Trump à durcir sa position dans les négociations de paix avec la Russie ?
C'est la question, vu que ces négociations ne produisent pas le résultat escompté. Ces morts de civils qui s'ajoutent aux 18 personnes tuées, dont 9 enfants à Kryvyi Rih, mettent l'administration Trump en difficulté. Mais comme d'habitude, les officiels américains n'incriminent pas directement la Russie, à l'exception de l'émissaire américain pour l'Ukraine, Keith Kellogg, qui dénonce une attaque qui dépasse toutes les limites de la décence. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, tout comme Donald Trump, se sont bornés à qualifier l'attaque d'horrible. Le président américain a ajouté de la confusion en affirmant « ils ont fait une erreur » sans préciser à qui il faisait référence.
Est-ce que Donald Trump, du coup, a finalement déjà capitulé face à Vladimir Poutine ?
En tout cas, la proposition américaine de cesser le feu est ignorée par la Russie qui, au contraire, a intensifié ses attaques qui touchent les civils. Le bombardement de Soumy s'est produit 2 jours seulement après la rencontre entre l'émissaire américain Steve Witkoff et Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, rencontre qualifiée d'utile et d'efficace par le porte-parole du Kremlin. Récemment, Donald Trump a semblé exprimer un mécontentement en appelant les Russes à cesser, je cite, de bombarder comme des fous, mais c'est l'inverse qui se produit. Alors certes, Donald Trump a signé un décret prolongeant d'1 an les sanctions contre la Russie, initialement imposées par Joe Biden, mais il n'est pour l'instant pas question d'en imposer d'autres. Par ailleurs, la Russie était l'un des rares pays à ne pas figurer sur la liste des États concernés par les taxes douanières américaines. Autre concession qui pourrait être faite au Kremlin, des responsables du ministère américain de la Défense sont en train d'étudier le retrait de 10 000 militaires américains stationnés en Europe de l'Est, selon les médias américains qui citent des sources américaines et européennes.
Cette politique américaine, elle met en tout cas la pression sur l'Europe pour faire avancer l'aide militaire à l'Ukraine.
Oui, un conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UE se tient en ce moment même à Luxembourg. Au menu, la nouvelle version du plan de Kaya Kallas, la chef de la diplomatie de l'UE, à l'origine un plan ambitieux de 40 milliards d'euros d'aide militaire qui est revu à la baisse. Même s'il existe des divisions avec notamment la position hongroise, les Européens sont effectivement sous pression pour faire preuve de plus de solidarité. Citant un diplomate européen, Euractiv relaie un sentiment largement partagé, à savoir que l'UE ne peut pas simplement rester assise à attendre de voir ce qui ressortira des pourparlers de paix entre les États-Unis et la Russie. Pour compenser la baisse du soutien américain, les alliés de Kiev ont promis une aide militaire record de 21 milliards d'euros, dont 11 de la part de Berlin. L'Allemagne, déjà deuxième fournisseur d'aide à l'Ukraine, devrait poursuivre sur la lancée, voire monter en puissance. Le futur chancelier se montre plus ferme que l'actuel sur le sujet. Olaf Scholz avait refusé de fournir des missiles Taurus capables de frapper profondément en territoire russe. Friedrich Merz se dit, lui, ouvert à cette possibilité, estimant que l'armée ukrainienne devait sortir de sa position défensive.
Merci beaucoup Anastasia Becchio pour ces explications. Cette guerre entre Kiev et Moscou, qui est en tout cas observée de près par Vladimir Karamurza, opposant russe, ancien prisonnier politique. Il a été arrêté en 2022 pour avoir critiqué l'invasion russe en Ukraine. Et cette invasion, il en parle justement à Arnaud Pontus.
Je veux que cette guerre termine le plus vite possible parce qu'il y a déjà des centaines de milliers de vies humaines qui sont perdues à cause de cette agression, à cause de cette guerre criminelle menée par le régime autoritaire de Vladimir Poutine.
Mais pour que la guerre s'arrête, il faut que Poutine le veuille. Est-ce que Vladimir Poutine veut la paix ?
Non, bien sûr, il ne veut pas la paix. Et il faut dire qu'il n'y aura pas de paix pendant que Vladimir Poutine reste au pouvoir. La seule façon d'assurer la paix, la stabilité et la sécurité sur le continent européen à long terme, c'est d'avoir une Russie démocratique. Une Russie qui va respecter les lois, les droits et les libertés de nos propres citoyens et aussi qui va respecter les frontières de ses voisins et les normes du comportement civilisé dans le monde. Parce qu'en Russie, la répression à l'intérieur et l'agression à l'extérieur vont toujours ensemble. Donc il n'y aura pas de paix pendant que Poutine reste au pouvoir, mais le cessez-le-feu est possible.
Alors vous dites aussi que tout accord de cessez-le-feu doit prévoir la libération de tous les prisonniers de guerre.
Absolument, ça, pour moi, ça c'est le plus important. Parce que pour l'instant, on voit ces négociations entre les représentants de l'administration Trump aux États-Unis et le régime de Poutine en Russie. Et ils parlent des minéraux, ils parlent du retour des compagnies américaines en Russie, ils parlent des avoirs gelés, je ne sais pas de quoi.
Ils parlent d'argent.
Ils parlent tout le temps d'argent. Et en fait, les deux envoyés, Monsieur Witkoff de la côté américaine et Monsieur Dmitriev de la côté russe, ce sont les gens qui ont dédié leur vie en fait à l'argent. Ils n'ont rien à faire avec la diplomatie. Et donc, pour ça, c'est même plus important que l'Europe, l'Union européenne, pose cette question. Comme vous avez dit, de la libération de tous les otages, de tous les captifs de cette guerre, parce que il y a des centaines de milliers de vies humaines qui ont été déjà perdues et on ne peut pas les faire retourner. Mais c'est possible encore de sauver les milliers de vies humaines, des gens qui sont des otages et des captifs de cette guerre. Je parle bien sûr des prisonniers de guerre de deux côtés. Je parle aussi des milliers d'otages civils ukrainiens qui ont été déportés en Russie.
Notamment les enfants.
Je parle aussi des milliers d'enfants ukrainiens qui ont été kidnappés, en fait, si on dit la vérité, au territoire occupé par la Russie. Et ça c'est très important, je parle aussi des prisonniers politiques russes, les citoyens russes, mes concitoyens, qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils se sont exprimés contre cette guerre d'agression menée par le régime de Vladimir Poutine.
Ce qui vous est arrivé à vous, avant d'être libéré.
Ce qui est arrivé à moi, mais maintenant, pendant qu'on parle avec vous, il y a, selon les organisations de défense des droits humains, il y a plus de 1500 prisonniers politiques en Russie. La catégorie la plus nombreuse parmi eux, ce sont les Russes qui se sont exprimés contre cette guerre criminelle. Et pour beaucoup d'eux, comme par exemple pour Alexei Gorinov ou Maria Ponomarenko et beaucoup d'autres, c'est pas seulement une question de captivité, c'est pas seulement une question d'emprisonnement illégal, mais c'est aussi une question de vie ou de mort. Et il faut sauver ces gens-là.
Vladimir Karamurza, vous nous dites, les émissaires russes et américains ne parlent que d'argent. Est-ce que la méthode qu'applique le président Trump vous semble être la bonne ? Est-ce que vous comprenez cette logique ?
Je crois que la politique de l'administration actuelle des États-Unis est honteuse. Elle est complètement contre-productive parce qu'en fait, c'est une politique de rapprochement, de normalisation des relations avec Vladimir Poutine. Et en fait, je voudrais rappeler à tout le monde que Vladimir Poutine, d'abord, il n'est pas un président légitime. Il reste au pouvoir depuis 25 ans. Même s'il y a en limite constitutionnelle en Russie de deux termes, il a trouvé des trucs pseudo-légal pour contourner en fait ce limite constitutionnel.
Pour rester au pouvoir.
Absolument. Et en fait, il faut rappeler aussi que l'année dernière, en 2024, le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ont passé des résolutions reconnaissant Vladimir Poutine pour ce qu'il est, un usurpateur illégitime. Mais il est plus que ça. Il est aussi un assassin. Il est un meurtrier, parce que c'est sous ses commandes les deux chefs principaux de l'opposition démocratique russe, Boris Nemtsov et Alexei Navalny, ont été assassinés. C'est sous ses commandes que il y a des gens qui meurent chaque jour en Ukraine, y inclus les enfants. Pendant toutes les 25 ans que Vladimir Poutine reste au pouvoir, il tue dans la Russie, il tue en dehors de la Russie. Et c'est important de rappeler, tous ces dirigeants occidentaux, surtout américains, qui veulent normaliser les relations avec Vladimir Poutine, qui veulent rendre cette légitimité à Vladimir Poutine qu'il ne mérite pas et qui veulent encore une fois serrer la main de Vladimir Poutine. C'est important de le rappeler que c'est une main couverte de sang.
Vladimir Karamurza, interrogé ce matin par Arnaud Pontus sur RFI. Vous pouvez retrouver cette interview en intégralité sur notre site rfi.fr. Cette guerre en Ukraine, elle passe aussi par la communication sur le front depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et la montée en puissance de son allié Elon Musk. Eh bien, se pose de plus en plus la question de l'utilisation des systèmes de satellites Starlink. En mars dernier, le milliardaire lançait une menace à peine voilée de les couper en expliquant que si c'était le cas, tout le front ukrainien s'effondrerait. En quête d'alternative, l'Ukraine pourrait donc se tourner vers l'opérateur franco-britannique Eutelsat, mais c'est loin d'être simple. Bonjour Emmanuel Chaz.
Bonjour.
Correspondante de RFI en Ukraine. Alors avant de parler, Emmanuel, des alternatives, est-ce que vous pouvez d'abord nous donner une idée de l'importance de ces systèmes Starlink en Ukraine ?
Oui, alors en mars, justement, Elon Musk décrivait ces systèmes, ces kits Starlink, dont on estime le nombre en Ukraine à environ 42 000, comme la véritable colonne vertébrale de l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, toutes les unités militaires ont un terminal avec elles. Ça facilite les communications et donc les opérations sur le terrain. Donc, c'est vraiment l'usage militaire qui va être le plus critique, suivi par l'usage civil. L'Ukraine a vu ses infrastructures énergétiques et de communication fortement impactées par des frappes russes ces dernières années. Ces Starlink, ils sont aussi utilisés dans des infrastructures critiques comme les hôpitaux, les ONG, les administrations, donc tous les points de résilience installés aussi dans chaque ville pour offrir un accès Internet aux habitants des localités impactées par des frappes afin qu'ils puissent continuer à travailler lorsque leur travail est en ligne, continuer à faire tourner l'administration, etc. Bref, la priorité est vraiment le secteur militaire, mais ces terminaux, ils contribuent au bon fonctionnement du pays tout entier.
Alors, l'entreprise franco-britannique Eutelsat fait partie donc des alternatives les plus sérieuses à cette présence de Starlink en Ukraine. Mais est-ce que ces satellites permettraient à Kiev, Emmanuel, de s'affranchir des systèmes imaginés par Elon Musk ?
Alors justement, face aux menaces de Musk et la perspective qui est réelle d'une déstabilisation de l'Ukraine par son allié, en tout cas l'allié jusqu'à présent américain, pour forcer Kiev à signer un cessez-le-feu ou un accord de paix selon les vœux de Washington, Eutelsat se positionne effectivement comme une alternative sérieuse à Starlink. Selon la directrice de l'entreprise Eva Bernecke, il y a déjà plus d'un millier de terminaux Eutelsat en Ukraine. Ils sont financés notamment par l'Allemagne, mais il faudra encore beaucoup de temps pour en déployer davantage. Bernecke a d'ores et déjà averti que Eutelsat ne pourrait pas couvrir l'intégralité des besoins ukrainiens dans un premier temps. Donc si le projet est effectivement de fournir 40 000 terminaux pour véritablement s'affranchir de Starlink, la capacité, elle n'est pas encore sur le terrain et la technologie Starlink n'a pas encore été dépassée en termes de vitesse de connexion, de prix ou tout simplement de quantité. À l'heure actuelle, Starlink opère avec un réseau de 7 000 satellites, c'est 10 fois plus que Eutelsat.
En parallèle à Eutelsat, l'Union européenne cherche aussi des solutions auprès d'autres entreprises. Quelle est la stratégie actuelle de Bruxelles ?
Alors, l'Union européenne cherche des solutions pour contrer la souveraineté américaine, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour sa propre défense. Et en plus des projets de développement d'Eutelsat, d'autres projets sont en cours de développement, dont Eutelsat ne constitue qu'une partie. Le projet IRIS, à l'échelle de l'Union européenne, a pour but de développer un réseau qui se mesurera à terme à Starlink, avec d'autres entreprises comme la luxembourgeoise SES, l'espagnole ISDESat ou encore l'entreprise britannique Viasat. Donc, les alternatives existent, sauf que ces projets, ils vont prendre du temps à être développés. Iris, par exemple, pourrait être opérationnel à partir des années 2030. Et en ce qui concerne l'Ukraine, au moment où Kiev fait face à une administration Trump qui jusqu'à présent s'est plutôt alignée sur les demandes de Moscou dans les discussions en cours sur un éventuel arrêt des combats, on est véritablement dans une course contre la montre pour s'affranchir de la dépendance au Starlink, en priorité sur le front et à terme dans le reste de la société ukrainienne.
Emmanuelle Chaz, correspondante de RFI en Ukraine pour cette chronique Un monde de tech aujourd'hui.
RFI Midi.
Et dans ce contexte de guerre, évidemment, les pays voisins de l'Ukraine craignent aussi la menace russe et se préparent à un éventuel conflit, à tel point que la Lituanie développe même des abris dans lesquels les habitants pourraient trouver refuge en cas de guerre. Un reportage de la correspondante de RFI à Vilnius, Marielle Vituro.
Eleonora nous emmène dans le sous-sol d'un immeuble d'un quartier plutôt chic de Vilnius, à quelques pas des studios de la télévision publique attaqués en 1991 par les soviétiques. Elle est à la tête d'un syndic qui gère une vingtaine d'habitations. Désormais, toutes les caves ont été nettoyées.
Dans beaucoup de maisons, les gens ont entreposé de l'eau. Il y a des seaux pour faire ses besoins. On trouve aussi de quoi s'asseoir, mais ça reste quand même très provisoire. Si jamais le bâtiment devait s'effondrer, ces caves n'ont aucune issue de secours. Le seul endroit du quartier où l'on peut être en sécurité est un parking souterrain qui est équipé comme il faut, avec ventilation, etc.
Sur la page internet du syndic géré par Eleonora, on trouve désormais des conseils pour se protéger, la liste des objets à avoir pour pouvoir attendre que l'aide arrive dans l'hypothèse d'un conflit.
Quand la guerre a éclaté il y a 3 ans, j'ai commencé à envoyer des courriers, à parler de protection lors des réunions. Les gens réagissaient mal. Pourquoi tu nous fais peur? Pourquoi tu nous parles de ça? 3 ans ont passé et tout a changé. Je pense que l'exemple finlandais nous aide à nous préparer. C'est une question de simple prévention. C'est comme quand on a une trousse de secours dans sa voiture. Ça ne veut pas dire que l'on va immédiatement mourir dans un accident de la route.
Les autorités lituaniennes ont aussi accéléré la préparation de la population. Peu après l'invasion russe en Ukraine, les Lituaniens ont reçu un petit livret de conseils sur l'attitude à adopter en cas d'accident nucléaire ou de conflit. Vladislav Kondratovich, ministre de l'Intérieur.
À ce jour, il y a 6426 abris qui peuvent abriter 54% de la population. Ce chiffre a doublé ces dernières années, mais il y a encore 30 municipalités qui doivent faire des efforts.
La ville de Kmergue, à 100 km au nord de Vilnius, est une ville modèle en matière de protection civile. Valdas Rabazauskas est le spécialiste de la protection dans la ville. Il a 34 000 personnes sous sa responsabilité, si l'on compte la ville et sa région. Sa fonction a bien évolué. Au début, il devait gérer les feux de tourbières en été. Aujourd'hui, il prépare les plans d'évacuation.
Les localités situées à 40 km de la frontière devront évacuer vers le centre du pays. La ville d'Oukmergué devrait accueillir les habitants de Vilnius. Un accord entre les villes a été passé. En ce moment, on prépare un plan en détail.
Il nous emmène rencontrer le directeur d'école, Darius Kaplunas. À l'époque soviétique, le sous-sol de son école servait de stand de tir, car les élèves devaient suivre des cours de préparation militaire. Aujourd'hui, les locaux ont été transformés en abri grâce à l'aide de la municipalité, 1000 personnes pourraient s'y réfugier.
Il y a un système de ventilation qui permet de pouvoir rester longtemps à l'abri. Il y a des couchettes, on peut aussi y fixer des matelas. C'est un bon abri pour se protéger des éclats d'obus et on pourrait même envisager d'y donner des cours.
À Oukmergué, les autorités veillent à ce que les caves soient déblayées et puissent servir d'abri. Tout est une question d'état d'esprit et de priorité. La ville a déjà connu des situations d'urgence avec l'explosion d'une usine de béton armé en 2003. Pour inciter les municipalités à se préparer, l'État met la main au porte-monnaie. Il vient d'allouer 12 millions d'euros pour l'aménagement de nouveaux abris.
Un reportage à retrouver dans Accent d'Europe, émission diffusée sur RFI du lundi au jeudi à 17h10 TU, 19h10 heure de Paris. Pour le moment, il est 13h49 à Paris et à Bruxelles. Nous sommes le lundi 14 avril 2025. Et dans la presse européenne aujourd'hui, cette dernière attaque russe donc a soumis en Ukraine au moins 34 morts et de très amères négociations de paix, titre Le Monde. Le journal français qui estime que les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu sont dans l'impasse et peinent à se concrétiser. The Guardian s'interroge donc. On ignore à quel moment la Maison-Blanche sera prête à conclure que le massacre de civils signifie qu'elle doit exercer une réelle pression sur la Russie pour qu'elle négocie plutôt que de céder aux caprices du Kremlin. Voilà ce qu'écrit le quotidien britannique. Washington et sa stratégie commerciale, cette fois également sujet de nombreux articles. Le parcours en zigzag de Donald Trump crée un nouveau chaos douanier, titre Der Spiegel. Le président américain doit annoncer de nouvelles taxes sur les semi-conducteurs cette semaine, après avoir pourtant annoncé une exemption pour les produits technologiques. Qu'arrive-t-il aux États-Unis, se demande l'économiste italien Guido Tabellini dans La Repubblica, qui prédit une récession, une baisse de la consommation des Américains. Situation qui pourrait, selon lui, pousser le parti républicain à perdre les élections de mi-mandat. Reste à savoir si cette défaite sera remise ou non en cause. Dans tous les cas, estime l'économiste, la détérioration des institutions politiques américaines ne sera pas un phénomène de courte durée. C'est là, et non la guerre commerciale, le principal problème auquel l'Europe et le monde libre devront faire face. Et puis la presse européenne, en particulier espagnole, rend largement hommage à Mario Vargas Llosa. Sa mort à 89 ans, un géant de la littérature universelle, titre El País, pour qui il fut journaliste. Le dernier écrivain hispanophone a remporté le prix Nobel de littérature en 2010, rappelle El Mundo, qui revient sur ses plus grands succès, La ville et les chiens, La fête de la chèvre notamment. En France aussi, les journaux nationaux reviennent sur sa carrière, un homme de conviction admiré pour sa description des réalités sociales, dit Le Figaro. Un virtuose de la narration et du réalisme, confirme Libération, qui a peu à peu, rappelle aussi Le Monde, glissé du communisme vers un libéralisme thatchérien assumé et revendiqué. On reviendra sur sa vie plus en détail dans une heure et demie environ dans la tranche Amérique.
RFI Midi.
RFI Midi.
Et si la musique pouvait conjurer justement cette époque de chaos que l'on évoque depuis une vingtaine de minutes maintenant? C'est en tout cas le pari et le souhait de la chanteuse Barbara Carlotti. Elle vient de sortir son 6e album studio et elle en parle au micro de Sophie Torlotin.
Barbara Carlotti, bonjour.
Bonjour.
Chérie, ton futur, c'est le titre de l'album. C'est une façon de conjurer le sort en ces temps anxiogènes ou c'est vraiment une attitude que vous avez face à la vie en général?
Alors l'histoire de la chanson, c'est que j'ai vraiment échappé très peu à un accident.
La mort est partout, elle t'attend à tous les coins de rue.
Ce texte-là, il est vraiment apparu comme ça après cet accident parce que j'ai vraiment eu très peur. Et je pense que du coup, il a fait un peu figure de talisman. C'est-à-dire, je me suis dit, s'il est sorti comme ça, c'est que je pense qu'il y a une attitude peut-être instinctive chez moi d'aller vers le bon, le bien, le beau, malgré tout. Et puis, je pense que la période du Covid et tout ce qui s'est passé après, la guerre en Ukraine, enfin, tous ces enchaînements absolument dramatique. Tout ce qui maintenant a envahi complètement l'actualité me fait penser que oui, on peut pas se laisser absorber par tout ce qui est absolument délétère dans l'actualité. Donc finalement, c'est devenu une sorte d'attitude en fait.
Donc chéris ton futur et soigne bien ton style.
Parce que c'est une chanson de l'album, mais c'est aussi le titre qui donne la tonalité en fait d'un album joyeux, solaire.
Mais je pense que moi, j'avais besoin de musique solaire et joyeuse pour me redonner de l'énergie. En tout cas, moi, je fais de la musique aussi pour trouver des réponses, me mettre dans un endroit agréable et doux et réconfortant. Enfin, il y a ça, puisque pour moi, la musique, c'est aussi ça. C'est vraiment un endroit de réconfort.
Sur cet album, Barbara Carlotti, il y a le titre Roma Amor, qui est un palindrome, ça peut se lire dans les deux sens. Il y a aussi le syndrome de Stendhal. Donc c'est vraiment un album sous le signe de l'Italie.
C'est aussi parce que j'ai fait une résidence. En fait, j'étais en train d'écrire l'album et j'avais pas du tout fini et je peinais un peu justement après cette période de Covid. J'étais avec Bertrand Belin, on faisait une performance pour les rencontres photographiques de Arles et le directeur des rencontres partait diriger la villa en fait, Sam Sturze.
La Villa Médicis ?
Oui, la Villa Médicis. Et je lui ai dit que j'étais à un point où j'avais vraiment besoin de trouver un espace pour terminer cet album. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc évidemment l'album est rempli d'Italie. Pour moi, Rome, c'est vraiment la ville éternelle, la beauté. Il y a des peintures du Quattrocento, du Caravage partout, dans on se balade. Toute l'histoire de la sculpture, de la peinture européenne est à Rome, en fait. Donc c'est extraordinaire, en fait, de vivre ça, je trouve, moi.
Et on entend donc Philippe Catherine à plusieurs endroits. C'est une collaboration de longue date.
Philippe, on a travaillé ensemble à plusieurs reprises. Effectivement, on avait fait un duo qui s'appelait « Mon Dieu, mon amour » sur mon album « L'amour, l'argent, le vent ». Il y a des thématiques qui se retrouvent. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose de philosophique pour moi de faire des chansons. Ça m'aide à penser philosophiquement le monde, c'est marrant. Philippe, il est donc présent et puis on est amis.
On avance vers l'inconnu. L'inconnu.
L'inconnu.
L'inconnu.
L'inconnu.
Mon bel inconnu.
On le prend toujours un peu pour un doudingue et tout ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui est juste, qui paraît juste un peu étrange pour le monde. Et justement, je trouvais que c'était beau que ce soit lui l'inconnu dans la chanson.
Barbara Carlotti, merci.
Merci à vous.
Si l'avenir atteint des dalles, dans les champs, l'espoir se dresse. Les arbres sont plus perspicaces que toute une foule réunie vers l'inconnu.
L'inconnu.
L'inconnu. L'amour n'est plus convenu, c'est notre seul territoire, notre unique plus-value. Les statues meurent dans la débâcle, on avance vers l'inconnu.
La Barbara Carlotti, interrogée par Sophie Torlotin pour la sortie de son nouvel album intitulé « Chérie, ton futur ». Allez, il est presque 14h ici à Paris. Dans un instant, l'actualité internationale. Et puis dans une demi-heure, Afrique Midi. Bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Clotilde Dumais, bonjour à tous.
Et à la une, Brice Clotaire-Oligui Nguema, élu nouveau président du Gabon.
Avec 90,35% des suffrages exprimés selon les chiffres globaux provisoires communiqués hier par le ministère de l'Intérieur, le chercheur Bergès Mietté sera notre invité pour décrypter ce résultat. On reviendra aussi sur cette nouvelle poussée de fièvre entre la France et l'Algérie. 12 fonctionnaires français ont reçu aujourd'hui l'ordre de quitter le territoire algérien sous 48 heures, décision qui fait suite à l'arrestation de 3 ressortissants algériens vendredi, soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement d'un influenceur et opposant algérien en France il y a un an. Et puis le camp de réfugiés de Zamzam, vidé de ses occupants au Soudan, c'était le plus grand camp de réfugiés dans le pays. Les paramilitaires des forces de soutien rapide ont revendiqué la prise du site hier.
Et rendez-vous donc à 12h30, temps universel. Pour le moment, encore un petit peu de musique sur RFI. Mario Lucio, Indépendance dans la playlist de RFI aujourd'hui.
Na Santo Mé, mundo soma na Guiné, mundo soma na Moçambique.
Mario Lucio dans la playlist de RFI. Restez avec nous dans un instant, l'actualité internationale.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Une bulle de joie et d'insouciance dans un monde en furie, ainsi Babix décrit son nouvel album « Amour Colosse », une déclaration d'amour à sa fille de 6 ans. Compositeur dans l'âme, il a aussi l'art des mots simples pour rêver de faire des tonneaux dans les nuées ou un slow sur la banquise.
Écoutez « De vive voix » avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.